Popol, le podcast politique qui donne la parole aux femmes.
Every time I look down on this timeless town, whether blue or gray be her skies, whether loud be her cheers or whether soft be her tears, more and more do I realize.
Bonjour, bienvenue sur ce 9e épisode de la 2e saison de Popol. Et pour ce 9e épisode, j'ai le plaisir de recevoir Marie-Xavière Vauquier. Bonjour Marie-Xavière.
Bonjour.
Comment vas-tu?
Ça va très bien. C'est dimanche, c'est chouette.
Et je suis... Ouais, c'est vrai. Est-ce que tu pourrais nous parler de toi, s'il te plaît?
Oui, alors j'ai 47 ans, j'ai 3 garçons, j'ai un mari. Et je suis la présidente d'un réseau professionnel féminin qui s'appelle Femmes en Mouvement.
Super, on est ravis de t'accueillir. Merci beaucoup d'être là avec nous. Mmh. Et nous avons aussi le plaisir d'accueillir Agnée Adizadeh. Bonjour.
Bonjour, bonjour Léa.
Comment vas-tu?
Ça va super. Enfin, super. Ouais, je hâte que l'hiver se finisse là. C'est...
Ouais, il est temps. C'est rude aujourd'hui. Le temps n'est pas très agréable. Hier, il faisait beau. C'était cool. Mais aujourd'hui, ouais, ça craint un peu. Est-ce que tu nous parlerais de toi, s'il te plaît?
Oui, je suis chargée de plaidoyer et de campagne 2022 dans une association qui s'appelle Démocratie Ouverte, qui fête ses 10 ans cette année. Démocratie Ouverte travaille sur comment est-ce qu'on met plus de participation citoyenne, comment on change les institutions pour plus d'horizontalité. Et Démocratie Ouverte, on est connu surtout pour avoir mené, initié la Convention citoyenne pour le climat.
Merci beaucoup, ravie de te recevoir ici. Et enfin, nous avons aussi le plaisir d'avoir avec nous Athénaïs Michel. Bonjour Athénaïs.
Salut Léa.
Comment vas-tu?
Écoute, pour une fois, je ne bosse pas le dimanche, donc ça va.
Et ouais, du coup, tu bosses quand même un peu parce que tu es obligée d'enregistrer Popol avec nous.
Ça va,
il y a pire. Ça va. Ouais, il y a pire. Bon, tu diras ça à la fin de l'émission, hein. On verra comment tu vis cette expérience. Est-ce que tu pourrais nous parler de toi, s'il te plaît?
Yes, alors moi du coup c'est Athénaïs, j'ai 23 ans, je suis en Master 2 du droit de l'environnement, je suis également élue à Paris dans l'8e arrondissement et l'ancienne présidente du parti politique Allons Enfants.
Super, est-ce que tu nous toucherais deux mots sur Allons Enfants, s'il te plaît, parce que je ne suis pas sûre que tout le monde connaisse.
C'est probable que personne ne connaisse même, bon, c'est un petit parti politique national en fait qui veut promouvoir la parole des jeunes dans l'espace politique parce qu'on considère qu'on n'est pas représenté. Ou très mal, quand on voit que la plus jeune députée, c'était Marion Maréchal Le Pen, moi, je ne me retrouve absolument pas en elle. Donc, on s'est dit, vu qu'il y a un peu personne pour nous montrer la voie, en fait, on va arrêter d'attendre qu'on nous tende la main et on va nous-mêmes se saisir des sujets, on va nous-mêmes, en fait, s'auto-investir en politique, voilà, au lieu de toujours attendre notre tour.
Et vous avez eu des succès?
Non, j'ai quand même la chance du coup d'avoir été tête de liste pour Anne Hidalgo. J'étais la plus jeune candidate au municipal à Paris. Donc oui, on a eu quelques élus lors des municipales. On commence vraiment à faire entendre notre voix. Donc il y a encore beaucoup d'efforts à faire pour la jeunesse en politique, encore plus pour les jeunes femmes. On pourra peut-être en parler, mais en tout cas, on pense que c'est un message qui prend et les politiques sont en train de se rendre compte qu'ils peuvent plus faire sans nous. En fait, on leur donne plus le choix. Ils sont obligés de prendre les jeunes en considération maintenant.
C'est clair. Bravo en tout cas. Merci beaucoup à toutes les trois d'être là aujourd'hui. On va parler de deux sujets pour ce nouvel épisode. On va parler de la primaire populaire et ensuite on parlera de la question du logement dans la campagne présidentielle. La primaire populaire. Sans grande surprise, Christiane Taubira a remporté dimanche dernier le scrutin de la primaire populaire. Scrutin un peu particulier d'ailleurs, car les votantes et votants ne devaient pas seulement voter pour leur candidate ou candidat préféré, mais donner des mentions à chaque candidat et candidate, volontaire ou non. C'est ainsi que Christiane Taubira a reçu la meilleure mention, bien plus, tandis que sa rivale socialiste s'est vue attribuer la mention passable plus. Et ce scrutin s'appelle le jugement majoritaire. Suite à l'annonce des résultats, la major de promo Christiane Taubira a appelé les candidats de gauche à se rassembler et à reconnaître ce scrutin qui lui permet, selon ses mots, de bénéficier du plus gros socle de légitimité démocratique à gauche. Elle considère qu'elle jouit avec cette consécration d'un mandat populaire pour aller au bout et rassembler. Cette primaire, qui a mobilisé près de 400 000 personnes, fait l'objet de nombreuses critiques. Mais la critique principale est qu'elle n'ait pas réussi à atteindre son objectif premier, à savoir celui de rassembler la gauche. Tout au contraire, cette primaire a plutôt semé la zizanie à gauche avant de déboucher sur une énième candidature venant s'ajouter aux nombreuses candidatures déjà déclarées à gauche. Qu'en pensez-vous ? Est-ce que cet exercice est légitime à vos yeux ? Et est-ce que Christiane Taubira a raison de s'affirmer en candidate de rassemblement ? Ou est-ce que le fait qu'un peu moins de 400 000 personnes aient décidé de ce à quoi la gauche devait ressembler et par qui elle devait être incarnée ne relève pas plutôt d'une certaine forme de hold-up pour les électrices et électeurs de gauche qui ne partagent pas tout à fait leur vision ? Athénaïs, qu'en penses-tu ?
C'est un vaste sujet. Non, je pense que déjà pour la primaire pop, on ne peut pas leur retirer le fait qu'ils ont essayé. Et surtout, je les suis depuis plusieurs mois, et c'est vrai que quand on est jeune, quand on voit tout ce qui s'annonce devant nous, on est dans un état de précarité catastrophique, on a l'urgence climatique, et on voit en fait que tout le monde s'en fout, clairement, là, on n'a pas envie de 50 plus, vraiment. Et on a envie de se saisir de notre destin. Et c'est quelque chose qu'on ne peut pas leur retirer, c'est qu'ils auront au moins essayé de faire quelque chose. Et ça, on ne peut pas le reprocher aux gens. On dit oui, mais s'ils avaient machin, bah là, il n'y a pas le regret de dire on n'a pas essayé, on a tenté l'expérience qui était archi novatrice en politique. Après, en effet, on a un résultat un peu en demi-teinte. Après, c'est à voir comment nos politiques publiques vont réagir, comment Christiane Taubira va aussi réagir à ça. Elle a une légitimité, ça c'est sûr, on ne peut pas lui retirer la légitimité des votes qu'elle a eus. Après, ça ne veut pas forcément dire que ça doit être la leaduse, que ça doit forcément être elle. Est-ce qu'elle ne peut pas aussi faire une équipe, se construire en équipe avec quelqu'un d'autre ? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres solutions envisageables ? Parce qu'elle représente quand même beaucoup, beaucoup de valeurs, la jeunesse, le féminisme, le social, etc. Elle a été élue sur un socle commun, et ça, c'est hyper important de le rappeler. Elle a été élue sur des valeurs de gauche, qu'elle les respecte et qu'elle s'y tienne. Et après, qu'elle puisse pouvoir travailler avec d'autres candidats là-dessus. Après, je ne sais pas si ça fera gagner les présidentielles. Là, c'est dans 2 mois. Honnêtement, je perds un peu espoir, pour être très sincère, je perds un peu espoir par rapport à gauche. Après, s'ils arrivent, en tout cas, moi, je suis assez naïf pour vous dire que je pense que les gauches ne sont pas irréconciliables. Je pense qu'on peut trouver ce socle commun et on peut se réunir autour. Après, malheureusement, ça ne dépend pas de moi et ça ne dépend pas de vous non plus, quoi. Donc, bon, voilà.
Mais vous ne trouvez pas un peu chelou cette histoire de socle commun ? Enfin, comment on peut déterminer que c'est un socle commun ? D'ailleurs, il y a plusieurs personnes de parti, notamment de mémoire chez LFI, qui disaient qu'ils avaient effectivement participé à ces espèces d'ateliers de définition du socle commun et que à certaines reprises, leurs remarques n'avaient pas été prises en compte. Agnès, toi, tu vois ça comment ?
Écoute, l'intérêt du socle commun, en tout cas, c'était de poser les urgences et avoir ce truc de que ce soit urgence sociale, environnementale et également démocratique, on peut s'entendre sur ça. On peut dire que c'est là où, en tout cas, l'aile progressiste ou l'aile gauche souhaite porter son attention et que les candidats doivent à minima s'entendre sur ces trois notions-là. J'ai l'impression que nous, on a contribué à l'aile démocratique de ce socle-là. Aujourd'hui, on n'est plus, démocratie ouverte, on n'est plus dans la primaire pop parce qu'on considère qu'elle s'est vachement politisée. Donc, c'était démocratie ouverte, on est transpartisan et donc on n'est plus dans le conseil d'orientation. Mais ça nous semblait important de dire, de notre point de vue, de dire OK, il faut changer les institutions si on veut réussir à répondre aux crises environnementale, sociale, je trouve ça bien qu'il y ait cette convergence des luttes, quoi. Moi, je le vois comme ça. Et je trouve ça très violent ce qui s'est passé sur la primaire pop. J'essaie de voir le verre à moitié plein, de me dire il y a une initiative citoyenne. Il y a cette question que tu as posée de la légitimité, et Athénaïs, tu as dit la même chose sur la légitimité de cette initiative. À partir du moment où des citoyens ont envie de se réunir et de dire nous, on porte ces valeurs-là, et on a envie de rassembler, on a envie de, hors parti, puisque les partis, de toute façon, aujourd'hui, sigillent la gauche, comme on dit, RIP la gauche, le PS en tout cas, la démarche citoyenne est légitime. Ensuite, est-ce que, on va dire, Christiane Taubira a réussi à prouver aujourd'hui sa légitimité comme candidate unique de la gauche, ben non. On peut dire que ouais, là, c'est compliqué, ou en tout cas qu'on n'y est pas encore. Et ce que je trouve très violent, mais après, c'est... En fait, c'est ce constat de dire la politique est violente, quoi. Et que j'avais entendu quelqu'un de la Première Pop dire détruire l'anneau, enfin, tu vois, c'est cette analogie du Seigneur des Anneaux, pour détruire l'anneau, il faut se saisir de l'anneau. Et donc, c'est rentrer dans le jeu des présidentielles, les jeux, des tactiques, des manigances ou des manipulations politiciennes. Et en fait, c'est rentrer dans le jeu. Et c'est là où, pour moi, il y a un truc qui est... Je ne sais pas, si on veut détruire le régime présidentialiste, qui pour moi est la plus grosse faille de cette Ve République à bout de souffle, ben là j'ai l'impression que la Première Pop, en tout cas, participe de ce cirque médiatique-là et continue cet emballement autour de qui est l'homme ou la femme providentielle qui va sauver la France. Et c'est là où pour moi, c'est un peu rideau, quoi. C'est un peu, non. Il y a un truc on aboutit encore à cette impasse-là, et les Français ne s'y intéressent pas. Enfin, je me disais, c'est génial, ça fait 3 semaines, on entend moins parler de Zemmour, il y a la Première Pop partout dans les médias, verre à moitié plein, super, on fait du vote au jugement majoritaire, allez, on change de système et bravo la Première Pop. Puis je lis un sondage IFOP, c'est genre seulement un Français sur deux a évoqué la présidentielle avec ses proches. Et la chute d'intérêt, elle est de 10 points par rapport à l'élection de 2017. Donc, en gros, je me dis, mais la France s'en fout. Je veux dire, la Première Pop, entre nous, on en parle, machin. Mais
d'ailleurs, c'est une des critiques, une des principales critiques qui a été faite à la Première Populaire, c'est d'être une espèce d'entre-soi de gens social-démocrates, quoi, en quelque sorte. C'était Et avec quand même un profil CSP+, urbain. Et ça, c'est clair bien. qu'on peut pas leur enlever ça. Après, sur le fait que quand même la majeure partie des candidats de gauche ne le reconnaissent pas, c'est quand même un vrai problème, non, Marie-Xavière, qu'en penses-tu?
Oui, j'ai participé, mais c'est inscrit assez tôt. Moi politiquement j'étais plutôt centriste, et là je bascule plus centre gauche, on va dire, et je m'étais inscrite parce que je me disais que n'importe quelle opportunité qui envoyait le message que les gars là-haut, va falloir un petit peu mettre vos égos de côté et vous entendre, parce qu'il y a tellement de gens qui n'en peuvent plus et qui vous demandent juste de présenter une tête, parce que Athénaïs l'a très bien dit, et Annie aussi, en fait, l'élection présidentielle aujourd'hui, c'est une tête, voilà, et on vote pour une personne, et cette personne, en fait, là, aujourd'hui, elles sont toutes là à dire « c'est moi la meilleure, c'est moi l'élu, etc. etc. » mais sauf qu'on n'est pas bête, quoi, on sait compter, et on voit bien que dans les élections, ça ne donne rien, et du coup, c'est complètement démoralisant. Alors, moi, j'avoue, j'avais complètement loupé ce truc de « ah oui, c'est pour Taubira, je ne sais pas quoi ». J'avais vu vaguement passer dans certaines discussions sur des groupes. Et puis, bingo, elle gagne de rien. Quand on regarde, en fait, elle bat, Yannick Jadot au couteau d'une très courte tête, en fait. Enfin, c'est ce que j'ai cru comprendre en regardant un peu dans le détail. Et du coup, ça a décrédibilisé le truc, parce que sinon, c'était quand même 400 000 personnes qui s'inscrivent. Le processus d'inscription était assez complet. Il fallait avoir son téléphone, une carte de crédit, un compte email. Enfin, c'était pas rien quand même. C'était vachement. Il fallait faire preuve d'une certaine détermination pour réussir à s'inscrire et à voter. Et voilà. Et je trouve que c'est vraiment dommage. Et pour moi, en plus. Taubira, je reconnais plein de qualités, mais pour moi, elle est vraiment associée à 2002. Enfin, je pense que je suis la seule qui avait le droit de vote parmi nous quatre en 2002. Et en fait, ça, c'est aussi un truc qui m'a traumatisée. C'est-à-dire que nous, en fait, on s'est pris une gueule de bois, mais monstrueuse. C'était horrible. Et c'est vrai que Chevènement s'était aussi présenté, mais Chevènement n'en a plus trop parlé, et Taubira, elle est encore là. Et du coup, et ça, c'est aussi un truc qui m'a frappé en discutant avec des jeunes, c'était, oui, de toute façon, que l'extrême droite soit au second tour en France, dans une présidentielle, bah, c'est normal, c'est arrivé deux fois, ça va arriver une troisième, et voilà, et moi j'ai envie de pleurer, quoi. Et voilà, je trouvais que c'était. Enfin, il y avait quelque chose à en tirer, et l'enfermement de ceux qui ne voulaient pas reconnaître le résultat en disant non, mais moi je m'en fous, je ne reconnais aucune légitimité, etc. Voilà, tout ça a été triste. En fait. Ça a été triste. Ça aurait pu être un truc formidable et c'est transformé en un truc triste.
Ouais, mais qu'est-ce qui, d'après toi, a fait que ce soit transformé dans quelque chose de triste? C'est de la faute des politiques? C'est la faute des organisateurs, organisatrices de cette primaire?
Enfin, moi, je pense que c'est la faute des politiques. Je pense que c'est clairement la faute des politiques, en fait.
Et le fait qu'ils aient décidé, pour la majeure partie, de ne pas reconnaître le scrutin.
Exactement,
quoi.
Oui. Mmh. Et du coup, de ne pas s'inscrire dans cette dynamique, de ne pas dire, bah, tiens, votez pour moi. Voilà, c'est ça que je trouve. Il y a 400 000 personnes, c'est pas rien, 400 000 personnes. Enfin, essayer de visualiser 400 000 personnes, c'est 400 000 personnes qui disent j'ai fait tout le processus, etc., etc. Et je vous demande, voilà, enfin, in fine, ce que je vous demande, c'est de mettez-vous d'accord pour présenter qu'une seule tête et qu'on ait une chance. Et effectivement, Annie a tout à fait raison. Pour casser le truc, il faut réussir à le choper, quoi. Voilà, sinon, on fait rien.
400 000 personnes, effectivement, on le rappelle, hein, c'est plus que la primaire des Verts, la primaire écolo. Donc c'est vrai que c'est pas négligeable, mais c'est quand même beaucoup moins que la primaire socialiste de 2017 où il y avait plus de 2 millions de personnes, ou la primaire LR aussi de 2017 qui, pareil, avait mobilisé beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. Athénaïs, pour toi, c'est le signe de quoi cette tentative de la primaire populaire et ce semi-échec? Qu'est-ce que ça évoque pour toi? Qu'est-ce que ça dit?
Bah, j'aimerais bien rebondir sur ce que disait Annie, parce qu'elle dit quelque chose de très, très pertinent sur la violence en politique. Et du peu d'expérience que j'ai, tout ce que je vois, c'est juste des rapports de force constants, des concours à qui va faire plus peur à l'autre, etc. C'est du coup, ça revient aussi à notre régime présidentialiste, mais c'est tellement de violence, et c'est que ça. Et c'est vrai que moi aussi, ça m'a assez choqué la violence que se sont pris les gens de la primaire pop. Alors bien sûr, elle n'était pas parfaite. Bien sûr, il y a plein de choses à améliorer, il y a plein de choses qui n'allaient pas. Mais comme je disais, au moins, ils ont essayé et ils se sont pris de la haine sur les réseaux sociaux, du harcèlement, etc. Mais je me suis dit, mais pourquoi, en fait? Est-ce que c'est parce qu'ils s'attaquent à des appareils politiques et à des choses qui peut-être nous dépassent parce qu'on est autour des élections présidentielles et que du coup, on est des enjeux d'ego, de pouvoir, parce qu'après les présidentielles, tu as les législatives et donc du coup, c'est des négociations. Qui est du coup mis dans les sondages pour pouvoir faire les meilleurs négos pour les législatives et du coup, qui va pouvoir garder son poste? Enfin, c'est des choses assez caricaturales que je peux vous dire, mais je vous jure que c'est ce que je vois. En tout cas, c'est ce à quoi j'assiste et je pense que je suis pas loin de la réalité dans ma caricature. Et ça m'a fait peur. Et est-ce que du coup ça vient pas du coup de notre système, du fait que oui, vu qu'on est au niveau de la présidentielle, qu'il y a aussi l'histoire de prix majoritaire après pour les législatives, qu'il y ait tout ça, qu'on fonctionne que par des rapports de force, et aussi par rapport à l'argent. Législative, il faut savoir que c'est ce qui permet d'avoir des subventions publiques quand on est un parti politique. Donc en fait, il y a ces enjeux-là aussi derrière. C'est-à-dire que même si on n'a pas d'élu, après, on a de l'argent. Plus on a de l'argent, plus on peut faire des choses politiques. Et ça, je pourrais en reparler après, mais je vais vraiment dévier. Mais l'argent dans les partis politiques, c'est vraiment quelque chose que je maîtrise beaucoup, parce qu'en fait, on peut rien faire quand on est un petit parti parce qu'on n'a pas d'argent. Et du coup, on a tout ça, tous ces enjeux de pouvoir, tous ces enjeux d'argent liés à notre système. On est quand même en 5e République depuis un peu trop longtemps, je trouve. Il faudrait peut-être qu'on puisse revoir notre système dans sa globalité, et je pense que c'est tout ça qui fait que maintenant on n'arrive pas à se rassembler, on a ce système qui va nulle part et qui du coup passe à côté de tout, en fait. Donc oui, on a l'urgence climatique, l'urgence sociale, mais qu'est-ce que vous voulez faire avec un système pareil sur ces sujets-là, en fait?
Ouais, tout à fait. La question, effectivement, de la violence et des codes en politique est une question importante. Je trouve ça intéressant ce que tu dis, ton développement, par rapport au fait que le fait qu'il se soit pris un tel shitstorm, parce que c'est un peu ça, hein, est-ce que ça ne veut pas dire effectivement que le fait que ça essaie de faire bouger un peu les lignes de quelque chose d'assez ancré en politique et d'assez traditionnel en quelque sorte, c'est pas ça qui fait un peu peur de bousculer l'ordre établi? On voit toujours que quand on essaie de bousculer l'ordre établi sur des luttes, qu'elles soient sociales, féministes, environnementales, quelles qu'elles soient, il y en a toujours qui sont là pour venir délégitimer les actions. C'est pas inintéressant. Après, moi, je peux comprendre aussi qu'il y a un certain nombre de personnes qui se disent, bon, bah, écoutez, vous êtes bien sympa, mais Taubira, elle a fait R pendant 5 ans, et là, elle débarque, et ça y est, c'est celle qui va nous sauver, alors qu'elle s'est quasiment retirée de la politique, qu'elle débarque avec un programme qui est parfaitement vide, alors qu'il y en a qui bossent depuis des années sur quelque chose de très solide et qui vraiment croient en la victoire en 2022. On peut comprendre que ça saoule quelques personnes, ça, c'est clair. Enfin bon, bref. Annie, tout à l'heure, ce que tu disais qui me semblait vraiment super intéressant, et j'aimerais bien qu'on revienne là-dessus, tu parlais de comment Démocratie Ouverte avait réagi à la primaire populaire pour dire on s'en est écarté, on s'est éloigné du mouvement à partir du moment où on a compris que ça se politisait. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Enfin, de base, c'était quand même quelque chose de politique.
De base, c'était quelque chose qui s'adressait, on va dire, à l'ensemble de l'aile, moi j'appelle ça progressiste, puisque gauche, c'était aussi de dire ce socle commun ou ce que la primaire pop défend, ça devrait aller même au-delà de la gauche. Et c'est ça le plaidoyer qu'on porte chez Démocratie Ouverte, c'est de dire, ok, on se doute que l'extrême droite ne va pas être très... On a une campagne qui s'appelle « Faire gagner la démocratie » et nous, on porte un ensemble de mesures pour changer les institutions, mettre la démocratie locale. Tu parlais, Athénaïs, du financement des partis politiques, ça en fait partie, Julie Acagé, d'autres organisations, Anticor, je vais pas tous les citer, mais... des think tanks sont venus aussi collaborer et dire le système est grippé, bloqué, de quoi on a besoin pour que les choses bougent et qu'est-ce qu'on a envie de pousser auprès des partis et des candidats et de tous les partis et de tous les candidats. Donc on fait aussi bien des rendez-vous avec les équipes de campagne de Pécresse que de Macron. Tu vois, c'est pas un sujet à gauche, en fait. La crise sanitaire, la crise du logement, on en parlera tout à l'heure, la crise écologique, ça devrait tous nous concerner. Donc, c'était en cela que pour nous, la primaire pop, au départ, était transpartisane. Au moment où ça se politise, au moment où Taubira rentre, nous, on va continuer à contribuer. Hein. C'est aussi de dire faire feu de tout bois. C'est pas on s'écarte de la primaire pop, on dit là la primaire pop rentre dans une séquence qui est beaucoup plus politique, qui va soutenir une candidate Taubira avec un programme, avec un positionnement idéologique. Nous, comme on s'adresse à tous, on travaille avec les collectivités, les élus, on est vraiment sur le terrain. Donc on n'a plus lieu, c'est vraiment une question de la déontologie et des lignes rouges de Démocratie Ouverte. Ça n'a rien à voir avec « oulala, attention, ça chauffe et on s'écarte ». Tu vois, je ne sais pas si ça permet d'éclaircir.
C'est non-partisan.
Oui, exactement. Mais on va contribuer. C'est vraiment un truc de dire, quels que soient les candidats, et d'ailleurs, on se positionne aussi sur les législatives, ça c'est un truc qu'Athénaïs a dit, c'est les législatives, elles sont en train de se jouer maintenant, en fait. Les circos, elles sont en train d'être distribuées. C'est un jeu de dupes en fait. Hein. C'est maintenant que ça se joue.
Merci beaucoup Agnès. Je vais laisser le mot de la fin à Marie-Xavier sur ce thème. Est-ce que tu peux conclure, s'il te plaît?
Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est ce que je disais tout à l'heure, j'ai voté au présidentiel pour la première fois en 1995, donc ce n'est pas du tout ma première élection. Et moi, je trouve que finalement, la primaire populaire, c'est le symptôme de la maladie de la démocratie. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'instance en fait, qui est reconnue par une majorité de personnes. Et du coup, il faut que ce soit quelques personnes qui se disent on va essayer de faire quelque chose, on va se mobiliser. Et oui, ce ne sera pas parfait. Et Athénaïs a raison. Et ce n'est pas parfait, mais les partis politiques ne sont pas parfaits. La démocratie, ce n'est pas parfait. Tout ça, c'est le fait d'être humain, d'hommes et de femmes qui font des erreurs, qui ont des égos, etc. etc. Et moi, je pense qu'il faudrait que ça n'ait jamais à se reproduire, en fait. Parce que c'est un mauvais signe, en fait. Tout simplement, c'est un mauvais signe. Ça ne devrait pas être le fait d'individus de secouer comme ça un ensemble de personnes, en fait.
Merci beaucoup, c'était une bonne conclusion. La démocratie est effectivement imparfaite. Je vous propose de passer à notre deuxième thème, qui est celui du logement. Le logement occupe peu d'espace pendant cette campagne présidentielle, alors que c'est un sujet majeur pour la plupart des Françaises et des Français. Afin d'alerter sur cette question fondamentale, la Fondation Abbé Pierre a organisé, à l'occasion de la présentation de son rapport annuel sur le mal-logement, un grand oral au cours duquel les candidates et candidats ont été invités, a présenté les mesures de leur programme relatif au logement. Le président de la République, toujours pas officiellement candidat, a lui défendu son bilan lors d'un entretien vidéo avec le directeur délégué de la Fondation, Christophe Robert, pour qui, je cite, « avec 15 milliards d'euros d'économies sur le quinquennat, le logement a été le premier contributeur à la réduction des dépenses publiques. Construction de 150 000 logements sociaux par an pour Hidalgo, insister sur la rénovation pour Jadot, fin du logement social pour Zemmour, 5 millions de logements sociaux en un an pour Roussel, pas plus de 30% d'HLM dans les communes pour Pécresse, création d'une sécurité sociale du logement pour Mélenchon. Les propositions sont nombreuses, mais paraissent peu ambitieuses face au problème majeur du logement en France. Donc voici, je le rappelle, quelques chiffres. 4 millions de personnes sont mal logées, 300 000 sont sans domicile et un quart des Françaises et des Français disent avoir des difficultés à payer leur loyer ou à se chauffer. Qu'en pensez-vous? Est-ce que les mesures annoncées par les candidats vous semblent satisfaisantes? Est-ce que la question du logement prend suffisamment d'espace dans le débat public en pleine campagne présidentielle? Est-ce que l'urgence...
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
France ne devrait pas plutôt justifier que cette thématique occupe davantage les débats. Agnès, qu'en penses-tu?
Enfin, déjà, constat, enfin, c'est super que, que la Fondation Abbé Pierre ait secoué la campagne avec cette thématique. Le constat, c'est que le logement ou le mal logement a été vraiment, pour moi, le parent pauvre de ce quinquennat, Macron, et que c'est une bombe à retardement social. Que vraiment, le nombre de personnes mal logées s'aggrave Les appels ont diminué. En 5 ans, les HLM, c'est 6 milliards d'euros en moins. Ça aurait pu permettre 200 000 nouveaux logements sociaux. La manière dont les bailleurs sociaux travaillent, c'est un problème énorme. Et en même temps, tout est fait dans le système économique. Il y avait une chronique géniale de Cécile Duflot sur France Inter qui disait « La France, c'est un pays de multipropriétaires et de locataires. » C'est même plus propriétaire vs locataire. C'est, t'as des gens qui concentrent, qui font de la spéculation, qui achète pour lui sur Airbnb, enfin des marchands de sommeil, enfin c'est grave et la crise sanitaire, je pense, nous l'a montré à quel point, enfin les chiffres aussi du coronavirus étaient liés au territoire, où est-ce qu'il y avait du mal logement, où est-ce qu'il y avait de l'insalubrité, où est-ce que les gens vivaient les uns sur les autres. Donc merci de mettre ce thème-là dans la campagne. Et après les programmes, ouais, moi je les trouve trop légers. Il y a eu il y a eu Taubira qui a cafouillé en direct et ça a fait les choux gras dans les des journaux pareil enfin je sais pas moi il y a un truc de les programmes présidentiels ils donnent je n'en attends pas une véracité je sais pas comment te dire enfin il y a quelque chose de c'est des promesses de campagne comment on va financer tout ça, enfin, ça donne des directions. Et donc, moi, mon curseur, c'est de dire quel candidat s'en est réellement saisi. Mais je sais qu'une fois au pouvoir, voilà, c'est pas du tout, c'est jamais ce qui est annoncé qui se passe. Donc, pareil, est-ce que j'attends des candidats? Est-ce que j'attends de Taubira qu'elle soit nickel chrome? Pareil, est-ce que j'attends qu'on soit tous en 2 jours parce que la Fondation Abbé Pierre a sorti un rapport expert et experte du sujet? Ben non, en fait, c'est un problème aux racines profondes, c'est économique, c'est social, c'est le partage des richesses, et je trouve de cette concentration des richesses qui s'est accentuée avec la crise.
C'est clair. Est-ce que, à ton sens, Marie-Xavière, ce sujet mobilise suffisamment la classe politique de manière générale? Agnès a bien fait de rappeler un peu le bilan du quinquennat qui est quand même assez catastrophique en la matière. Est-ce que finalement ce problème du mal logement et de l'absence de logement pour beaucoup de Françaises et de Français ne devrait pas être la priorité absolue des débats actuels ou l'une des priorités absolues ?
Alors, c'est effectivement. Alors, pour préparer l'émission aujourd'hui, du coup, j'ai fait une petite recherche sur Internet et du coup, j'ai tapé ministre du Logement pour voir si c'était Emmanuel Wargon qui sortait. Et alors, c'est assez marrant, si vous faites cette recherche-là sur Internet, en fait, le ministère qui sort, ce n'est pas celui de Wargon, c'est celui de Jacqueline Gourault, je crois. C'est celui de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités. Et ensuite, il faut chercher. En fait, quand on cherche Emmanuel Wargon, qu'on la trouve pas. Donc, ça montre que déjà, en fait, dans la gouvernance en fait, du logement actuellement, le sujet, en fait, il est splitté entre deux ministères, celui de l'environnement et celui, de l'aménagement du territoire pour simplifier. Donc, ça, j'ai été très surprise, en fait, quand j'ai fait ça aujourd'hui. Et sur le logement, je pense que c'est aussi un sujet qui est de l'ordre de l'intime. C'est-à-dire qu'on revient en fait chez les gens, et par exemple, ça s'est vu pendant le coronavirus, pendant le grand confinement, il y avait tous ces gens qui étaient mal logés, tous ces gens qui étaient soit dans des endroits trop petits, soit dans des endroits insalubres, soit dans des endroits qui sont en fait dangereux, et je veux dire pour elles, parce que c'est surtout en fait un lieu de danger pour une femme, et les enfants de ces femmes qui sont en danger. Et je pense que ça a peut-être un peu à voir avec ça, c'est-à-dire que c'est un sujet qui a l'air un petit peu trop terre-à-terre pour des politiques qui veulent se projeter sur la place de la France dans l'Europe, dans le monde, dans je ne sais pas quoi, et en gros s'occuper de est-ce qu'il fait bon, est-ce que les gens sont bien installés, est-ce qu'ils souffrent de l'humidité ou pas. En fait, non, mais c'est un petit peu... C'est pas notre niveau, quoi, les gars. Enfin, soyez un peu sérieux. On est là pour du régalien, quoi. On n'est pas là pour savoir si chez Madame Michu, oui, est-ce qu'elle a calfeutré toutes ses fenêtres parce qu'en fait, elle n'arrive pas à payer son chauffage et du coup, elle laisse de l'humidité. Du coup, tout le monde est malade dans la famille, mais ça n'intéresse personne, quoi. Je pense qu'il y a un peu de ça, en fait. Et voilà, et effectivement, la campagne présidentielle, je pense qu'on a tous hâte que ça se termine pour qu'on entende, moi, j'ai masqué un certain mot dans mon fil Twitter pour me faire des vacances de l'esprit, quoi, parce que sinon, c'est juste intenable. Et effectivement, non, ça ne prend pas du tout la place que ça prend, mais je pense que c'est aussi un sujet de... Ouais, bah, c'est un sujet de bobonne, quoi.
Je suis tout à fait d'accord avec toi. Et d'ailleurs, pour avoir bossé sur cette question justement du discours politique, des codes virilistes dans la politique en France pendant des mois, j'ai remarqué qu'en fait, les thèmes, comme celui que tu cites, donc le logement, mais d'autres, hein, l'environnement, la santé, des choses comme ça, sont des thèmes qui finalement ne sont pas super virilistes. Et du coup, ben, c'est pas cool de parler de ça pour les hommes qui sont là à faire des combats de coqs sans cesse. Du coup, ils vont parler de quoi ? Ben, ils vont parler des vrais trucs de bonhomme, quoi. Ils vont parler de sécurité, ils vont parler de la chasse, ils vont parler de ceci, ils vont parler de cela. Mais effectivement, je crois que tu as raison, il y a un peu un mépris d'un certain nombre de thématiques dans le débat public actuellement, et je suis tout à fait d'accord avec toi. Athénaïs, toi, tu vois les choses comment de ton côté par rapport à cette question du logement ? Tu partages cette vision des choses que Marie-Xavier vient de décrire ?
Bah, je pense que déjà, pour une fois, et ça change un peu vu un peu la tête du débat public, on parle, oui, de vrais sujets, parce que moi, j'en peux plus d'entendre parler du wokisme, etc. Enfin, franchement, je sature, et c'est pas ça qui change ma vie. Par contre, moi, je suis étudiante. Donc, en fait, le logement, c'est quelque chose de très transversal. Donc, en tant qu'étudiante, moi, je n'ai pas regardé que la section logement. Je vais aussi regarder, OK, est-ce que vous voulez un RSA jeune ? Est-ce que vous voulez l'ouvrir aux jeunes ? Qu'est-ce que vous faites pour lutter contre la précarité des jeunes ? En tant que personne qui est souvent en maraude, donc moi, le logement, ça va être aussi la partie qu'est-ce que vous faites pour l'ASE ? Parce qu'il y a quand même 40% des personnes sans abri bah, qui viennent de l'aide sociale à l'enfance. Donc, c'est quoi votre programme pour l'ASE ? Ils ont 18 ans, vous les mettez à la rue ? Enfin, qu'est-ce que vous faites ? Non, c'est vrai que quand ils ont 17 ans, on les met dans les hôtels. C'est pas pareil quand même. Non, moi, en fait, c'est trop transversal et on peut pas se focaliser sur juste la section logement d'un programme d'un candidat. Il faut qu'on puisse regarder tout ce qui va autour. Parce que la question du logement, c'est quelque chose qu'on va retrouver même dans l'environnement. Par rapport à la rénovation énergétique, etc. Donc, en fait, on ne peut pas juste segmenter. Tiens, on va regarder les trois petits bullet points qu'ils ont mis sur la section. Il faut pouvoir regarder ça dans un ensemble, quoi. Et c'est vrai que c'est une vraie saison. C'est le sujet du quotidien de tout le monde, là. Et aussi, en tant qu'élu, moi, le logement, c'est personnellement la chose sur laquelle on me saisit le plus. et c'est des situations mais qui sont dramatiques et c'est quelque chose qui me touche beaucoup. Là, j'ai reçu encore un mail la semaine dernière, je vais essayer d'aider quelqu'un, un jeune migrant afghan, qui là, du coup, perd le logement qu'il avait en ce moment. Il me dit, bah voilà, moi, je viens de trouver un travail en France, mais là, je perds tout, qu'est-ce que je fais, en fait? Et c'est que des questions comme ça, c'est des familles. Oui, il faut que je m'occupe de mes parents, sauf que là, j'ai viens de perdre mon emploi à cause de la crise du Covid, qu'est-ce que je fais? Et c'est des situations, mais c'est dramatique, et on reçoit des mails dramatiques, et on fait notre mieux à notre échelle. Je rappelle, je suis conseillère d'opposition dans un arrondissement. Je fais de mon mieux, je fais vraiment de mon mieux. J'essaie de les aider à monter les dossiers, etc. Mais malheureusement, je n'ai pas toutes les clés en main. Et c'est pour ça que c'est le sujet pour moi quasi prioritaire, un des plus gros sujets prioritaires. Et en fait, j'ai l'impression qu'ils balaient ça d'un revers de main. Ah ouais, c'est vrai, il y a le rapport qui est sorti, il faut quand même qu'on y réponde d'histoire d'eux, parce que là, ça va faire un petit peu la une dans les journaux pendant une semaine. Et en fait, après, on s'en fiche. Alors qu'ils ne comprennent pas que c'est quelque chose qui doit se retrouver dans tous les points de leur programme.
Tout à fait, c'est vraiment un sujet qu'il faut considérer comme étant une question transversale, un peu comme les questions sociales, les questions environnementales. C'est des choses effectivement qu'il faut voir dans sa globalité. Et ce n'est pas ce que font d'ailleurs les candidats dans leur programme. Quand tu regardes de près ce qu'ils proposent, effectivement, c'est un peu des mesures. C'est pour ça que je parlais d'ambition par rapport aux mesures qui sont en introduction, aux mesures qui sont proposées. L'ambition est finalement assez basse, puisqu'on ne prend pas ça comme une question effectivement transversale qui vient de toucher tout un pan, divers pans, pardon, de nos vies et de nos quotidiens, ça c'est certain. Agnès, est-ce que tu veux réagir là-dessus?
Oui, enfin, hyper d'accord. Merci Athénaïs de le voir comme un problème systémique. Il y avait ce truc de dire le logement, c'est de l'ordre de l'intime aussi. Moi, je pense que c'est éminemment politique. Enfin, si ton poste de dépense, et c'est ce que le rapport de la Fondation montre, le poste de dépense, mais aussi tes postes de dépense en énergie. Enfin, la précarité énergétique touche de plus en plus de personnes. Si ce poste de dépense augmente, en fait, les gens sont en mode survie. Si tu es en mode survie, tu n'as pas le temps de t'intéresser à la politique. Je veux dire, les endroits... Il y a plein d'endroits où garder les... Enfin, en tout cas, cette aggravation de la précarité, elle est liée aussi à la manière dont les citoyens peuvent dire j'ai du temps ou pas pour autre chose, pour m'investir socialement dans des associations et pour me saisir de la question démocratique. Je vous rappelle, le berceau des Gilets jaunes, c'est la France pavillonnaire, la France des ronds-points, la France de la périphérie. On a éloigné les gens dans des zones où c'est des cités dortoirs, ils doivent prendre leur voiture pour aller travailler. Tout ça, c'est des questions environnementales aussi. On morcelle la vie des gens. Enfin, comment est-ce que tu recrées du lien social? Comment est-ce que tu crées de la vie associative quand t'es là-bas? Et on a bien vu à quel point c'était cette France-là, en fait, qui s'était repolitisée. Donc, dernier sujet, c'est la malinscription. Il y a tous élus qui ont lancé une campagne sur cette thématique-là. La malinscription, elle touche deux grosses catégories de personnes. Les personnes en situation précaire qui déménagent tout le temps, et aussi les étudiants jeunes qui, pareil, n'arrivent pas à se loger, changent tout le temps de ville, de lieu. En ça, c'est éminemment politique. Il y a énormément de choses. Je pense aussi à un autre exemple, c'est le community organizing, donc comment les habitants se réapproprient la politique et leurs moyens de subsistance. À Barcelone, c'était autour des expropriations. C'est ce qui a repolitisé, c'est ce qui a nourri le municipalisme à Barcelone, c'est les habitants, à un moment, ont tiré les chaises en bas dans la rue parce que pour se passer les techniques ou les tactiques pour éviter toutes ces expropriations en masse. Donc ouais, c'est tout sauf de l'intime pour moi. Enfin, et après, la politique, elle nous marque dans nos chairs, donc... l'intime et politique.
Pardon, ce que moi je voulais juste dire, c'était pas moi je suis entièrement d'accord avec toi, Annie. C'est-à-dire que c'est pas du tout un sujet de l'intime, en fait. C'est effectivement un sujet qui est essentiel pour tout le monde, sauf que dans la façon dont c'est communiqué, ressenti, etc., et aussi parce que tous les gens qui font, enfin tous les gens, pas tous, mais une grande partie des gens qui font l'actualité, c'est des gens qui sont bien logés. Et c'est très difficile de se rendre compte de ce que c'est d'être mal logée. L'autre jour, j'ai une amie qui me racontait que quand elle a divorcé, elle s'est retrouvée avec, en gros, un reste à vivre tout petit. Et du coup, elle mettait le chauffage que dans la chambre de sa fille. Et elle avait froid. Elle avait froid tout l'hiver. Et si vous lisez aussi la BD de Pénélope Bagieu, les Strates, là, elle raconte qu'elle a vécu à Londres. Et à Londres, c'était hyper cher le chauffage. Et elle avait une machine avec des pièces. Et du coup, elle, quand on lui dit Londres, elle pense « j'ai froid », en fait. Et ça, c'est horrible parce que ça veut dire qu'on ne se repose pas. Ça veut dire que, en fait, c'est exactement ce que tu disais. On ne peut pas s'intéresser à autre chose parce que l'enjeu, c'est je gère quoi, est-ce que je fais une étude, est-ce que je fais une tarte, est-ce que je fais ci, est-ce que je fais là. Et encore, quand je dis ça, c'est des trucs qui sont assez positifs, en fait. C'est, voilà. Et derrière, il y a toutes les questions économiques, il y a toutes les questions, effectivement, de la politique de l'énergie parce qu'on ne fait rien sans l'énergie. Et oui, ça ne devrait pas être de l'ordre d'un type, mais c'est comme ça que c'est. Je pense, ressenti par ceux qui ont la parole.
Alors qu'effectivement, c'est un problème qui est plutôt systémique et assez global. Athénaïs, je peux te laisser la parole pour conclure sur ce thème, s'il te plaît.
Non, mais je rejoins ce qu'elles ont très bien expliqué. Et en fait, c'est aussi juste lié au fait qu'on a aussi des dirigeants et dirigeantes, mais surtout des dirigeants qui sont complètement déconnectés de notre réalité. Enfin, moi, je rigolais alors que c'est absolument pas drôle, mais je disais, ah bah, je pense que j'étais la seule candidate dans une mairie à vivre dans 9 mètres carrés, sous les toits, hyper mal isolée, avec la moisissure à des endroits. Je rigolais ça comme ça. Je sais que c'est absolument pas drôle parce que j'aime bien essayer de rire un peu de mes malheurs, il faut bien. Mais c'est quelque chose, voilà. Moi, je sais ce que c'est. Donc quand j'allais dans la rue parler aux gens de plusieurs thématiques, j'étais non mais je vous parle pas de haut ou machin, je sais combien ça coûte une baguette de pain, je sais à quel point là c'est difficile avec le Covid, vous avez peur de perdre votre taf, bah moi aussi, donc on a les mêmes galères, voilà. Et je pense que rien qu'un discours comme ça, alors après ça veut pas dire qu'il faut qu'il y ait que des gens dans la précarité qui soient nos dirigeants, mais en tout cas ce pied dans la réalité, en tout cas qu'ils puissent être beaucoup plus sur le terrain et que ce soit pas juste des chiffres, mais vraiment qu'ils puissent voir aussi que c'est une réalité, en fait. Il y a des gens derrière tout ça, il y a des vies derrière tout ça, et d'arrêter d'être toujours dans une petite bulle élitiste où, en fait, tu es juste complètement déconnecté de ta réalité, et en effet, tu vas faire des politiques publiques à côté des réalités parce que tu n'as plus du tout le pied dedans, quoi. T'es complètement à l'ouest. Donc voilà.
Et ça, d'ailleurs, le gouvernement actuel excelle particulièrement en la matière, il faut bien le dire, hein, on peut le reconnaître
très bien. Ça.
Merci beaucoup pour cette conclusion qui nous ramène au réel, et c'est assez important. Bravo Athénaïs, effectivement. Rappelons qu'il y a des vrais gens derrière tous ces chiffres et derrière ces politiques au quotidien qui doivent être réfléchies et menées pour tout le monde, toutes et tous, de manière la plus juste possible. Merci beaucoup. On va passer à vos actualités, aux actualités que vous souhaitiez partager avec nous aujourd'hui. On va commencer avec toi, Marie-Xavier. De quoi voulais-tu nous parler, s'il te plaît?
Alors, moi, je voulais parler de deux choses qui ont été évoquées un peu précédemment sur, effectivement, la mal-inscription et la non-inscription. C'est que moi, j'étais, alors, je ne suis pas élue, mais j'étais assesseur. En fait, j'ai tenu des bureaux de vote en tant qu'adjointe, etc. Et il n'y a rien de pire pour un assesseur, en fait, que de voir des bureaux vides, des gens qui viennent participer au compte-gouttes et à la fin de la journée, de recompter 5 fois pour être sûr que, ah oui, tiens, non, mais c'est clair, on n'a pas dépassé les 35% de vote à ce scrutin. Et donc, je suis en train de rédiger une petite tribune que je vais mettre sur LinkedIn, je pense, et dans laquelle je proposerai mes services pour aider ceux qui n'arrivent pas à s'inscrire, en fait, qui trouvent ça un peu trop compliqué ou je ne sais pas quoi. Parce que je vais essayer de participer à nouveau comme assesseuse. Et voilà, et je veux qu'il y ait plus de gens qui viennent voter parce que c'est pas possible, en fait. Enfin, surtout quand on est une femme et quand, bonsoir, ma grand-mère, elle n'avait pas le droit de vote quand elle avait mon âge, quand elle était plus que moi, parce que c'est pas si vieille. Enfin, purée, les filles, mais motivez-vous, quoi. Bougez-vous les fesses, allez voter, emmenez vos enfants et montrez-leur à quoi ça ressemble un bureau de vote. Je vais arrêter de taper sur mon bureau, pardon. Et voilà. Et ce qui réjouit le cœur aussi quand on est assesseur, c'est de voir des gens qui viennent voter avec leurs jeunes enfants pour désacraliser le bureau de vote. Voilà, c'est un endroit sympa, c'est un endroit avec des gens souriants qui passent leur dimanche et tout. Donc, s'il vous plaît, les gens, inscrivez-vous, venez voter. Si vous ne savez pas comment faire, contactez-moi, vous y arriverez, il n'y a pas de souci. Et je vous aiderai parce que c'est primordial. Et le deuxième truc, c'est un petit peu plus léger. J'ai deux copines à Lyon qui lancent en fait un café atelier vélo féministe, vegan, écolo, techniche. Et donc, il y a une collecte en cours et ça s'appelle le café Pogno. Et donc, elles ont déjà atteint un premier palier, mais voilà, elles rassemblent des sous pour lancer leur café qui sera un endroit hyper accueillant pour toutes les femmes, etc. J'ai trop hâte d'y aller. Donc voilà, donner des sous pour le café Pognon.
Excellent, merci beaucoup. Tu nous tiendras au courant. Moi, je vais à Lyon régulièrement parce que ma maman habite à Lyon. Donc, j'irai y passer une petite tête.
Voilà, je t'enverrai le lien de la collecte.
Avec plaisir. Merci beaucoup, Marie Xavier. Agnès, de quoi voulais-tu nous parler, toi, s'il te plaît?
Mon actu, c'est que je vais bientôt accoucher de mon premier enfant. Ouais. Et du coup, même là, je suis en train de me politiser à balle. Tout est politique.
Félicitations.
Merci. Mais du coup, ça me rend encore plus féministe. Je crois que c'est un sujet où enfin voilà, c'est quand tu creuses un peu, tu te rends compte à quel point, il y a un chemin politique à faire même là-dedans, surtout dans la maternité, que ça, encore une fois, ça touche à l'intime, ça, la politique nous traverse. Et tu parlais de dépatriarcaliser, enfin, la politique ou la société dépatriarcalisée, c'est pas juste dire on veut plus de meufs, on veut des quotas, on veut 50% de femmes, des jeunes, des vieux, enfin, c'est de dire, c'est changer la manière dont la politique est faite, enfin, que ce soit pas descendant, que ce soit pas... ce soit pas en haut, c'est pas un papa ou une maman providentielle qui décide, mais c'est, enfin, pour parler de mal logement, si on laissait les gens qui le vivent au quotidien dire de quoi ils ont besoin, bah, c'est ça pour moi la démocratie participative. Et ce qui m'a vraiment ramenée à la politique, c'est, pour moi, c'est l'entrée féministe. Du coup, j'ai envie de faire un énorme coucou aux filles d'Investi. Investi, c'est un programme. Un parcours d'entraînement à la prise de poste politique qu'on a créé pendant le Covid avec 60 femmes, que des badass. C'est quoi les plafonds de verre qui nous empêchent de nous déployer dans le champ politique? On a parlé d'amour, on a parlé de care, on a parlé de tous ces sujets-là. Et du coup, là, je voulais vraiment saluer les femmes là, qui sont déjà lancées dans les campagnes législatives et qui portent toutes des programmes hyper... Enfin, du coup, nourrie de ça, nourrie d'horizontalité, nourrie de participation citoyenne, nourrie de... Enfin, je suis dans la campagne de Kitry de Villepin, elle met son énergie en plus de la campagne à construire une assemblée locale délibérative, donc de dire, pendant mon mandat, je m'appuie sur les citoyens de ma circo pour aller dans les commissions qu'ils jugent importantes, c'est sur le climat. Il y a Sophia Majnoni, Madia à Nantes, Loumire Lapré dans l'Ain, enfin, elles sont incroyables. C'est très dur les législatives quand t'es pas dans un, enfin voilà, quand t'as pas la grosse machine derrière toi. Et elles ont besoin de soutien. Et on sort aussi le documentaire de cette aventure investie. C'est Judith Grumbach qui l'a filmé. On va lancer un crowdfunding. Enfin voilà, on a été vachement inspiré par le Squad, par AOC, par toutes ces. Enfin voilà, faut pas lâcher les législatives à 15. C'est un groupe parlementaire. On peut secouer les choses, quoi. Donc voilà, j'ai hâte qu'on en finisse avec la séquence présidentielle, moi.
Merci beaucoup, Agnès, et félicitations pour le bébé. Ouais. Peut-être couche quand, du coup?
Dans un mois.
Waouh, ah oui, c'est imminent, comme on dit. Ok, trop cool, ouais. Merci beaucoup.
Elle pose la question.
D'accord. Félicitations. Athénaïs, toi, de quoi voulais-tu nous parler, s'il te plaît?
Déjà, je voulais dire félicitations à Agnès. Et franchement, vous avez que des initiatives trop cool. Enfin, moi, je connaissais déjà un petit peu Investi. Et aussi, ce que disait Marie-Xavier, franchement, j'aime trop entendre des initiatives de meufs, etc. Je pense qu'on a besoin aussi de sororité. Du coup, je voulais vous encourager. Et moi, je voulais parler d'un sujet un peu moins joyeux par rapport à la précarité étudiante, parce que du coup, je suis également représentante étudiante à Assas. J'ai cofondé une asso qui s'appelle Assas in Progress. Et voilà, nous, c'est tout ce qui est justice sociale, précarité, lutte contre les discriminations. Et je vais en parler parce qu'on a sorti une tribune il n'y a pas longtemps avec des potes par rapport à Macron qui disait qu'il voulait augmenter les frais d'inscription à l'université. Et en fait, c'est plus possible. Enfin, on est dans une université qui se meurt, clairement. On ne donne plus aucun moyen à l'université. On ne donne plus moyen aux étudiantes et aux étudiants, ni aux enseignantes et enseignants. En fait, tout part. Et qu'est-ce qu'on fait? Ah bon, on va privatiser. Tiens, la solution de la facilité, on privatise comme ça. Il n'y a que les élites qui y vont et on enlève tous les pauvres. Là, hop, on enlève le problème. On s'en débarrasse. Voilà, c'est un peu comme ça qu'on vit. Moi, je suis boursière. Je trouve que c'est très violent de me dire que parce que je suis pas née dans la bonne famille, j'aurais juste ne pas pu faire d'études si en fait on aurait rendu ça payant. Et je suis allée à l'université parce que c'était gratuit, je précise, hein, j'avais pas les moyens de faire des écoles, etc. Et je suis encore obligée de travailler à mes études pour pouvoir à peu près bouclé le tout, et c'est un sujet qu'on parle pas assez. Alors oui, il y a eu la crise sanitaire, on a parlé 2-3 fois un petit peu, ah ouais, les étudiants, ça va pas trop, mais en fait, on est toujours en crise, et on va toujours aussi mal. Les listes d'attente pour les paniers repas, etc., dans les files alimentaires, c'est terrible. Moi, j'ai encore eu une meuf de ma promo la semaine dernière qui abandonne à cause de ses soucis de santé personnelle, et ça m'a brisé le cœur. La moitié des étudiants que je connais sont sous médoc, et on n'en parle pas. On n'en parle jamais, il y a un gros tabou, et j'essaie vraiment d'en parler à mes potes pour qu'on arrête de dire c'est pas bien de prendre des médocs, etc. Non, enfin, si on les prend, déjà c'est pas anodin, si on est autant à en prendre, c'est clairement pas quelque chose d'anodin, et il faut qu'on en parle pour se dire qu'on n'est pas tout seul, et du coup aussi dire aux étudiantes et étudiants qui vont pas trop bien, mais vous êtes pas tout seul, on est tous ensemble, il faut vraiment qu'on reste solidaires, parce que s'ils ont pas envie de nous écouter, on va pas leur donner le choix, en fait, on leur dire bah, on va pas se laisser mourir, en fait. Vous allez pas pouvoir nous éradiquer, ou je sais pas. Enfin, non, on est des êtres sensibles. On a envie d'avoir un avenir. C'est pas vous qui allez décider ou pas de notre avenir. On va se saisir de ces sujets-là et on va pas se laisser abattre. Et donc, pouvoir voilà, dire à tout le monde que vous êtes pas tout seul. Et aux politiques qui en ont rien à foutre, bah, qu'on va pas vous laisser le choix, en fait. Moi, je compte clairement pas me laisser faire sur ces sujets-là. Donc, soyez prêts.
Ouais, bravo. Et effectivement, faut être sacrément déter parce que là, ça pue vénère. Effectivement. Merci beaucoup Athénaïs, c'était important de rappeler ça aussi. Merci beaucoup à toutes les trois d'avoir participé à ce nouvel épisode de Popol, c'était un véritable plaisir de vous recevoir. Je rappelle que la semaine prochaine, il n'y aura pas de Popol le dimanche soir. Enfin, si, il y aura un Popol, pardon, mais un Popol un peu particulier. Ce sera un Popol qu'on aura enregistré en live au Point Éphémère vendredi soir et qui sera diffusé donc dimanche. Donc, ce que je fais, c'est que je vous invite déjà à venir nous rejoindre au Point Éphémère pour écouter ce podcast en live qui sera particulier puisqu'on parlera d'un seul thème. On parlera des violences sexuelles et sexistes en politique avec Rose Lamy de Préparez-vous pour la bagarre, Nelly Garnier qui est élue à la région Île-de-France, élue Les Républicains, et Fiona Texer, Fiona qui est l'une des initiatrices de la tribune et du mouvement MeToo Politique. Donc je vous invite à nous rejoindre pour voir ce live, et si jamais vous n'êtes pas à Paris ou que vous ne pouvez pas venir, sachez que normalement si tout va bien et que l'enregistrement ne foire pas, vous pourrez réécouter cet épisode le dimanche soir dans vos oreilles, sur toutes vos plateforme de podcast préférée. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Late bloomers tend to have more curiosity. They tend to have more resilience.
There are stories and mythology that this country has woven around Black men.
This is the cavalry, right? These are the leaders, the hometown heroes and local leaders that we are.
It's a survival mechanism to just be like worried of police.
What if everything we've been taught is just all wrong?
What's worth more than this fear right now?
And that rising after failure is part of the glory of being a human being.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.